13. Les actualités Cogeco Nouvelles.
Le jeudi 16 mai, ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. Eh bien, la fin du système de paye Phoenix approche. C'est selon Radio-Canada aujourd'hui, en plus de coûter 4 milliards de dollars aux Canadiens. Il aura causé, bien sûr, des problèmes de paye pour des centaines de milliers de fonctionnaires depuis sa mise sur pied en 2016. Dans le budget fédéral, Ottawa prévoit maintenant 135 millions de dollars pour l'amélioration du système de paye et la poursuite d'une solution de remplacement. Le système Dayforce doit remplacer Phoenix dans les prochaines années. Et le montant prévu servira au développement du nouveau système. Dayforce est utilisé notamment par les gouvernements de l'Ontario et de la Californie. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec reprend dès maintenant ses moyens de pression pour mettre de la pression sur Québec et faire avancer les négociations. La FIC dit ne pas avoir d'autre choix que, alors que le gouvernement ne bouge pas sur la mobilité exigée de ses membres. Le syndicat affirme que ce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, exige des professionnels en soins va bien plus loin, qu'un simple déplacement mineur, qu'il s'agit de grands changements qui pourra porter atteinte à la sécurité des soins. Rappelons que l'entente de principe a été rejetée par les membres de la FIC. La grève n'est pas écartée. Le transfert de patients de la Côte-Nord annoncé dans les prochains jours est évité pour l'instant. Le CI3S de la Côte-Nord a fait savoir qu'il avait pu recruter une cinquantaine de personnes, majoritairement des préposés aux bénéficiaires, de même que 5 infirmières, du personnel de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec et du CU3S de l'Est de Montréal. S'ajoutera également des fermetures prévues à Baie-Comeau, Sept-Îles, Forestville, ainsi qu'aux Escoumins ont donc pu être annulés. Cependant, le CI3S recherche toujours 36 infirmières et 80 préposés aux bénéficiaires. Le fédéral qui annonce 1 milliard de dollars en travaux sur 25 ans pour rénover le pont de Québec et prolonger sa durée de vie. La moitié de cet argent servira à repeindre la structure cédée par l'océan à Ottawa. Pour nous en parler, Philippe Rodrigue-Comeau.
Le premier ministre Justin Trudeau reconnaît que sa promesse commençait à prendre la poussière.
Ça a pris 8 ans, c'est ça que ça a pris, mais on l'a livré.
Mais la saga est officiellement terminée alors qu'Ottawa récupère le pont de Québec pour 1 $ et s'engage à réaliser 1 milliard en travaux pour le garder fonctionnel à long terme.
40 millions de dollars par année au cours des 25 prochaines années. Le programme comprend aussi un volet pour la peinture.
Pas moins de 8 ministres des Transports fédéraux différents ont négocié avec le CN avant d'en venir à un accord, Pablo Rodriguez étant le dernier.
Ça a pris longtemps, ça a joué rough d'un coin par moment, mais on l'a eu notre deal.
Au passage, Justin Trudeau laisse aussi entendre que la réhabilitation du vieux pont centenaire est une mauvaise nouvelle pour les partisans d'un troisième lien.
Avec ce pont garanti pour les prochaines générations, ça enlève peut-être la pression sur certains arguments.
Philippe Rodrigue-Comeau, Cogeco Nouvelles, Québec.
La crise du vol d'automobiles au pays ne montre aucun signe de ralentissement selon des données publiées par le Bureau d'assurance du Canada. En 2023, les réclamations d'assurance pour remplacer les véhicules volés au Canada ont monté en flèche, et ça pour atteindre le montant record de 1,5 milliard de dollars. En terminant, avoir des enfants au Québec n'est plus à la portée de toutes les bourses. L'inflation, notamment alimentaire et immobilière, affecte durement les familles. Selon une analyse publiée par la firme Arbacon, eh bien, les familles québécoises paient aujourd'hui, tenez-vous bien, 21% de plus pour élever un enfant qu'il y a 5 ans. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Ça devrait se dégager, donc on devrait avoir accès à une journée donc avec une alternance soleil-nuage lorsque la brume se sera levée, maximum à 16. La nuit prochaine, des nuages avec un minimum à 8. Et demain, alternance soleil-nuage et vent du nord-est et 15 degrés.
FM 93, c'est fixe. Avec Jean-Claude Chilina.
Bonjour, c'est Grosjean de Louis à l'appareil.
Oui, bonjour, tiens, Grosjean. Hein?
Oui.
Tu m'entends bien?
Oui.
Est-ce que je parle du nez un peu? Je pense que j'ai un olive de me pogner dans une narine depuis secondaire 5, là.
Oui?
T'as les magasins, t'es vous, puis je suis déçu parce que vos jeans de taille basse sont pas assez basses.
Comment ça, sont pas assez basses?
Ben, moi, je suis court sur pattes.
Ouais.
J'ai même pas le droit d'aller des manèges pour adultes en ronde, fait que tu vois quoi, hein? Les nains me regardent de haut.
C'est qui parle, là?
Je me fais carter pour aller dans une piscine à balles. Moi, si t'avais des jeans dans ma grandeur, ou bien je m'achète des shorts puis je me fais un rebord.
Oui.
Vous me revirez à chaîne de vide normal.
Pardon?
Oui, oui.
Je comprends pas ce que vous dites.
Oh, gagne vous. Vous avez le vin à Martini dans l'autre narine aussi. OK, oui.
SAQ, bonjour.
Oui, SAQ, comment ça va?
Ça va bien, vous?
Oh, très bien. J'ai besoin d'une petite clarification.
Oui.
Vous êtes un magasin qui vend du vin.
Certainement.
Et vous avez ressenti le besoin de créer l'espace cellier qui est un endroit pour vendre du vin?
Oui.
J'ai pas d'autres questions, votre honneur.
SAQ, sélection, bonjour.
Oui, bonjour. Mon médecin me dit que j'ai un problème d'alcool.
Ça se pourrait, mon cher monsieur.
Ben oui, il a raison. Mon problème, c'est que vous ouvrez juste à 10 heures.
Ben oui, mais là...
Ben oui, mais là, comment je fais pour mettre du Baileys dans mes céréales quand je déjeune?
Le menu du midi, du lundi au vendredi dès midi. En direct du studio McDonald's. CFX FM 93.
Dave Rimouski à CFXFM 93, la référence en réformation.
Voici Jonathan Trudeau.
Bon, on commence par quelques nouvelles qui retiennent l'attention dans la capitale nationale.
Oui, absolument. Sondage segment FM 93 qu'on a dévoilé hier et une autre partie qu'on dévoile ce matin. Première question sur le niveau de satisfaction envers le travail du maire Bruno Marchand. Il n'obtient pas la note de passage moyenne de 5.3 sur 10. Donc, on demandait aux gens d'évaluer de 1 à 10 leur satisfaction. Donc, moyenne de 5.3. Ce que je retiens, c'est qu'il y a 55% des citoyens qui lui donnent moins de 6 sur 10. Et parmi ces gens-là, statistique un peu, chiffre un peu frappant, 18%, presque 1 sur 5, lui donne 1 sur 10.
Bon.
Donc, ça démontre qu'il y a beaucoup, beaucoup de colère, de mécontentement envers Bruno Marchand. Puis, ce qui m'impressionne pour le voir jour après jour en animant une émission FM 93 à chaque midi, puis on a les réponses, les réactions des auditeurs en temps réel avec la messagerie texte. Lorsque Bruno Marchand est arrivé en poste en 2021, la lune de miel était impressionnante. Vent de fraîcheur, un style qui plaisait aux gens, des idées qui étaient nouvelles, etc., etc. Vraiment, à chaque fois qu'on parlait de lui, qu'on le recevait en entrevue, il y avait de l'enthousiasme. Mais le virage a été radical. J'ai envie de te dire, dans la dernière année et demie, où vraiment, là, les gens sont très mobilisés, très fâchés. Puis j'ai même envie de te dire qu'il y a une certaine violence dans le propos, comme si c'est rendu une réaction épidermique. Lorsqu'ils entendent parler de Bruno Marchand, lorsqu'ils entendent Bruno Marchand, les gens deviennent fâchés. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des appuis, mais on le sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de
mais cette colère découle de quoi? Le projet de tramway qui était hyper controversé, entre autres?
C'est beaucoup ça. Okay. C'est beaucoup ça. Quand le gouvernement a mis sur la glace le projet, Bruno Marchand, à un moment donné, a dit « Moi, j'en parle plus du tramway. Tant que la CDPQ Infra n'aura pas livré son rapport, j'en parle plus parce qu'il disait le tramway, c'est comme une espèce de trou noir qui absorbe toute l'énergie. » Et là-dessus, sincèrement, il a raison, parce que le dossier dont on parle le plus depuis qu'il est en poste, c'est le tramway. Mais c'est un dossier qui ne fait pas l'unanimité. L'acceptabilité sociale n'est pas là. Ajoute à ça le fait que Bruno Marchand avait promis plusieurs changements pour rendre le projet plus acceptable, qui n'ont pas été livrés. Et là, jumelé à ça, il y a le fait que, bon, on a découvert un maire qui était beaucoup plus à gauche, qui semble moins intéressé par les questions économiques, la communauté des affaires, des fois, qui se plaignent du peu d'intérêt. Ça fait en sorte que c'est difficile pour lui, sauf que, une fois que je t'ai tout dit ça, si tu me demandes aujourd'hui, 16 mai 2024, est-ce que je crois qu'il sera réélu à l'automne 2025? Je pense que la réponse, c'est oui. Parce qu'il n'y a pas de candidat particulier. Écoute, on parle encore et toujours juste de Sam Amande, qui souffle le chaud et le froid, qui aurait été rencontré par l'ancien parti de Régis Labombe. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de candidature sérieuse. Donc, ce serait plutôt surprenant qu'il soit battu.
Et dans le même sondage, on a demandé aux gens leur priorité entre les routes et le transport en commun.
Ben justement, il y a un lien à faire avec le fameux dossier du tramway. Bon, puis là, il y a le troisième lien au travers de tout ça. Fait qu'on a demandé aux gens, c'est quoi la priorité? Est-ce que c'est l'ajout de route ou l'ajout du transport en commun? Écoute, c'est une égalité parfaite. 47% qui pensent que c'est l'ajout de route qui doit primer. Un autre 47% qui démontre que c'est l'ajout de transport en commun. Donc, c'est une question qui divise. C'est pas, il y a pas de préférence marquée. Mais parlant de transport et de transport en commun, ça m'amène à glisser un mot sur l'annonce de Justin Trudeau hier, qui était de passage dans la ville de Québec pour confirmer ce qu'on avait dévoilé ensemble la semaine dernière, c'est-à-dire entente entre le gouvernement fédéral et le CN pour le maintien, l'entretien du pont de Québec. On n'avait pas les détails la semaine dernière, on les a eu hier. On parle $1 milliard sur 25 ans, soit 40 millions par année. Ça, c'est 60% au fédéral, 25% pour le gouvernement du Québec et 15% pour le CN. Deux petites observations là-dessus. Il y a 4 ans, Paul, on nous apprenait, c'est le journal de Québec qui nous apprenait ça, que juste pour la peinture du pont, on était rendu à $559 millions. Est-ce que tu connais quelque chose, toi, au cours des 4 dernières années, qui n'a pas augmenté?
Non.
Non, mais sérieux. Fait que c'est juste pour la peinture, on peut penser que le milliard qu'on prévoit, qui inclut de le remplacement de tonnes, c'est ce que me disait Pablo Rodriguez hier en entrevue, de tonnes et des tonnes d'acier. Puis, écoute, je suis passé encore dernièrement, là, les boulons tout rouillés, les petits travers qui sont grugés. Puis, autant on doit se réjouir qu'il y a enfin une entente, autant sincèrement, je ne vois pas comment on peut réalistement penser qu'avec 1 milliard sur 25 ans, on va couvrir tout ce qu'il y a à faire avec le pont de Québec.
Là. Écoute-moi les chiffres, là, depuis un bout de temps, ça rentre puis ça sort. Parce que, tu sais, je regardais ce matin Radio-Canada qui nous dit que le fédéral va se débarrasser de Phoenix.
Oui.
Ça a pris, quoi, 4 milliards d'investissements. C'est encore plein de ratés. Puis là, il développe un autre projet qui paraît-il est fantastique. Là,
ben oui.
Bon, ça, mais on ne sait pas à quel moment ça va entrer. Tu dis, écoute, il garoche des milliards dans des programmes qui tombe en ruine rapidement, qui cause des problèmes aux employés de l'État. Puis là, tu sais, on nous annonce un milliard. Ça va coûter 1 milliard, le pont. On sait bien que ça coûtera pas ça, là. Puis c'est la même chose pour l'agence, là. Tu sais, quand j'entendais le slogan la semaine passée à Québec, là. Tu sais, c'était quoi, là? 15% plus vite, 25% moins cher, là. Quelque chose de même, là.
Ou le contraire.
Ou le contraire, là. Bon, tu sais, en tout cas, moins cher et plus vite. Je crois pas ça. Peut-être que je suis de mauvaise foi, mais je crois pas ça. Mais
ben, c'est parce qu'on va nous dire des fois qu'on est cynique, mais faites-nous la démonstration que des fois les chiffres fonctionnent, que des fois ce que vous nous dites qui va arriver arrive effectivement. T'sais, c'est sûr que au volume, des fois, on devient un peu sceptique. Mais je termine sur le pont de Québec juste en disant que Justin Trudeau hier et Pablo Rodriguez disaient « Ah, ben là, en plus, ça vient régler des problèmes de congé. » Mais non, ça règle rien pantoute. Je veux dire, on va juste reniper le pont pour s'assurer qu'il tombe pas. Mais quand on regarde le développement anticipé de la rive sud, de la rive nord et tout ça, ça ne change en rien les problèmes anticipés de congestion. Voici, c'était mon petit message.
Très bien.
Gros lien supplémentaire.
Québec solidaire, là, ça s'en vient. La grande messe à Saguenay. Il y a Françoise David qui publie une lettre ouverte aujourd'hui dans Le Devoir. Une espèce d'appel à l'unité.
C'est intéressant parce qu'on voit que Françoise David n'est pas dans le camp Catherine Dorion ou encore Amir Kadir, hein, qui lui ce matin, dans une analyse très savante, dit que tout ça va faire, le plan de Gabriel Nadeau-Dubois, que ça va faire patate. C'est son analyse, que ça va faire patate. Il le répète à quelques reprises. Mais Françoise David, elle, on reconnaît dans sa lettre la rassembleuse, celle qui évite d'être en mode confrontation, bon, un ton posé et tout ça. Elle dit « Québec solidaire doit savoir marcher et mâcher de la gomme en même temps ». Elle dit « Évidemment, il faut s'engager dans les mouvements sociaux, mais aussi travailler avec acharnement et patience au sein d'un Parlement élu ». Donc là, tu lis ça puis tu dis « OK, elle essaie de ménager la chèvre et le chou, d'unir tout le monde, même si on pense que ça va être difficile d'y arriver ». Mais là, ça, je te parle de la première lecture, mais à la deuxième et troisième lecture, on se rend compte que dans le fond, elle penche pas mal dans le camp Gabriel Nadeau-Dubois, parce que vers la fin de sa lettre, elle dit « On doit revoir des positions perfectibles sans tout biffer, réfléchir à de nouveaux enjeux, se donner des fonctionnements qui conjuguent démocratie et efficacité ». Moi, je pense que ce que Françoise David est en train de nous dire, c'est que oui, Québec solidaire ne doit pas perdre sa couleur totalement, mais que Gabriel Nadeau-Dubois a raison de dire qu'on doit se concentrer sur certains enjeux, qu'on doit revoir le fonctionnement du parti et surtout être prêt à gouverner. Donc, c'est pas un appui direct, mais je pense que Gabriel Nadeau-Dubois pourra utiliser cette lettre-là d'une des fondatrices très, très, très respectées de Québec solidaire comme étant un message qui va un peu dans le même sens que le sien.
Non, mais tu sais, on peut ajouter que je dirais que Françoise David a incarné ce virage chez Québec solidaire quand elle a pris, par exemple, part au débat des chefs.
Ben oui, on s'en souvient tous.
Et ça